Le 18e gouvernement est élu mais n'a pas de président. Le premier tour de vote n'a rien donné. Philippe Dunoyer a déjà démissionné pour retrouver les bancs du Congrès. Page complète dès le début du journal. Un été dans nos quartiers, la mairie de Nouméa s'organise pour proposer des activités pour les enfants pendant les vacances scolaires, mais aussi pour leurs familles. En métropole, Emmanuel Macron fixe le cap de la diplomatie. Lors de la conférence des ambassadeurs, il a évoqué les ingérences étrangères en France, notamment le cas de l'Azerbaïdjan qui a voulu déstabiliser les Outre-mer, a-t-il dit. Nicolas Sarkozy devant la justice, l'ancien chef de l'État comparé pour le financement supposé illégal de sa campagne 2007. Et puis dans la page sport du tennis, notamment avec les qualifications à l'Open d'Australie, aucun des 6 Français engagés hier ne s'est pour l'instant qualifié. 18 autres sont en lice aujourd'hui. Bonjour à tous et bienvenue dans ce journal que nous ouvrons évidemment par l'élection des 11 membres du 18e gouvernement. Il n'y a pas eu de surprise lors du vote. En revanche, les membres n'ont pas encore réussi à élire leur président et le gouvernement a déjà enregistré sa première démission. On revient avec vous sur cette matinée intense au Congrès, Nicolas Legrand.
Oui, le feuilleton continue. Le début de matinée s'est déroulé sans surprise. Les élus du Congrès étaient réunis à 9h pour élire les 11 membres du gouvernement. Et les 4 listes déposées ont fait le plein de leurs voix. La liste commune Rassemblement Loyaliste a recueilli 19 voix et donc 4 sièges au gouvernement. La liste UCF-LNKS et Nationaliste, 15 voix et 3 sièges. La liste Unie, 11 voix pour 2 sièges. Et enfin, la liste Calédonie Ensemble et Éveil Océanien, 9 voix pour obtenir 2 sièges au gouvernement. Les membres du gouvernement sont donc Alcide Ponga, Isabelle Chamorro, Christopher Gigès et Thierry Santa pour le Rassemblement et les Loyalistes, Gilbert Thuyénon, Michael Forest et Samuel Népéoun pour le groupe UCF-LNKS et Nationaliste, Adolphe Digouet et Claude Gambet pour l'Unie, et enfin Philippe Dunoyer et Pételo Sao pour Calédonie Ensemble et l'Éveil Océanien. Dès leur élection, les 11 membres du 18e gouvernement se sont réunis dans la salle des commissions du Congrès pour élire le président. Mais le vote n'a rien donné. 2 candidats se sont déclarés, Alcide Ponga et Samuel Népéoun. Aucun des deux n'a obtenu la majorité absolue, puisque les 2 membres Unis et les 2 membres Calédonie Ensemble et Éveil Océanien ont voté blanc. Les 11 membres du gouvernement devront donc se réunir à nouveau pour tenter d'élire leur président. À la sortie de la réunion, Christopher Gigès des Loyalistes a appelé à se réunir derrière la candidature d'Alcide Ponga, qui a recueilli la majorité des voix.
C'était un peu un premier tour pour voir qui recueillait le maximum de voix. Et donc, on va discuter dans les prochains jours pour trouver une majorité de construction pour le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie. Il y a toujours un petit peu de temps pour la mise en place d'un gouvernement. Donc là, on était sur un peu un premier tour de scrutin pour voir un peu les équilibres. Le but, c'est que ça aille vite, qu'on trouve un président du gouvernement rapidement. On avait fait le choix de présenter Alcide Ponga, qui a recueilli la majorité des suffrages avec 4 voix. Et donc, on appelle vraiment la majorité de ceux qui veulent continuer à construire la Nouvelle-Calédonie, de voter pour la candidature d'Alcide et que l'exécutif puisse se mettre en marche rapidement.
De son côté, l'autre candidat, Samuel Népéoun, le candidat du groupe UCF-LNKS nationaliste, estime que les tractations se poursuivent.
Pour le moment, nous n'avons pas de commentaire particulier à faire. On a encore quelques jours pour se voir et discuter, mais avec tout le monde. Je pense que Les jours qui viennent seront des jours où il va y avoir certainement beaucoup d'échanges et beaucoup de tractations. Donc, la situation du pays nous oblige. Donc il faudra malgré tout se retrouver très vite, mettre en place un gouvernement dans les meilleurs délais afin de faire en sorte que les choses repartent vite parce qu'il y a des priorités et il y a des choses importantes à faire. Et la situation du pays nous oblige à prendre nos responsabilités et à mettre en place rapidement un gouvernement.
Philippe Dunoyer de la liste Calédonie Ensemble et Éveil Océanien avait annoncé vendredi dernier qu'il se porterait candidat à la présidence du gouvernement. Finalement, il a renoncé à briguer ce mandat, mais il a voté blanc pour marquer le coup et montrer que les tractations des 2 dernières semaines n'ont rien donné selon lui.
La première élection en fait, a été l'occasion pour moi d'illustrer, et c'est ce que je fais avec cette conférence de presse, que malheureusement, nous ne sommes pas parvenus à trouver un équilibre sur le contrat de gouvernance, sur ma proposition d'améliorer les relations entre le Congrès et le gouvernement, de changer la nature des discussions avec l'État, de décider d'un programme de réforme prioritaire et d'attribuer des secteurs entre nous. Bon, c'était des propositions. On avait 15 jours pour se mettre d'accord. On a beaucoup discuté et malheureusement, j'ai constaté hier soir qu'il n'y avait pas d'accord. Donc de 2 choses l'une. Soit on continue, on prolonge ces discussions, mais le problème c'est que le gouvernement n'entre pas en fonction. Et ma priorité c'est que le gouvernement justement soit installé le plus vite possible parce que les Calédoniens ont besoin d'un gouvernement qui n'expédie pas les affaires courantes et qui rentre tout de suite dans le dur des réformes à mener et de l'accompagnement dont les Calédoniens ont besoin. Donc pour y procéder, je renonce à siéger au gouvernement, ce qui fait monter M. Jérémy Catidjomonier, qui votera, ainsi que M. Pétello-Sao, pour la candidature de M. Ponga à la prochaine élection qu'organisera le haut-commissaire. Et ainsi, le gouvernement sera le plus vite possible en fonction et il décidera de sa feuille de route et des réformes à mener.
Philippe Dunoyer doit donc démissionner du gouvernement dans les prochaines heures. Il sera remplacé immédiatement par Jérémy Catidjomonier au 18e gouvernement qui, rappelons-le, a fait chuter le 17e gouvernement de Louis Mapou en démissionnant le 24 décembre dernier ainsi que ses suivantes listes. Autre conséquence institutionnelle, Philippe Dunoyer va donc retourner siéger au Congrès et il reste président de la commission permanente et surtout, Calédonie Ensemble conserve son groupe au Congrès avec 6 élus. Si Philippe Dunoyer était monté au gouvernement, alors la suivante de liste, Nina Julier, serait devenue conseillère du Congrès et celle qui avait été élue sur la liste Calédonie Ensemble en 2019 aurait alors rejoint le rang des loyalistes. Il n'y aurait alors plus eu que 5 membres Calédonie Ensemble, ce qui est insuffisant pour constituer un groupe. Alors, si on résume finalement la situation après la démission de Philippe Dunoyer du 18e gouvernement, la composition sera donc immédiatement la suivante. Alcide Ponga, Isabelle Champmoreau, Christopher Gigès et Thierry Santa pour le rassemblement Les Loyalistes, Gilbert Thuyénon, Mickaël Forest et Samuel Népéoun, l'autre candidat pour le groupe UCF-LNKS et Nationaliste, Adolphe Digouet et Claude Gambet pour l'UNI, et enfin Jérémy Catidjomonier et Pétello-Sao pour Calédonie Ensemble et l'Éveil Océanien. Vous l'avez entendu, Philippe Dunoyer affirme qu'Alcide Ponga sera élu dès la prochaine réunion du gouvernement qui se fait sur convocation de l'État. Alors ça peut aller très vite ou prendre encore quelques jours. Le gouvernement sera lui considéré comme étant de plein exercice s'il se dote du même coup d'un vice-président ou alors il faudra attendre 7 jours après la désignation du président pour qu'il soit de plein exercice.
Radio Rythme Bleu, opinion.
C'est l'heure de votre rendez-vous SMS sur Radio Rythme Bleu. Voici notre question du jour. La composition du nouveau gouvernement élu aujourd'hui va-t-elle faciliter, selon vous, le travail institutionnel? Si vous pensez qu'elle va le faciliter, vous tapez 1, sinon vous tapez 2 et vous envoyez votre réponse au 31-46. La réponse à la question d'hier, elle a fait l'unanimité parmi les auditeurs de Radio Rythme Bleu qui se sont exprimés nombreux par SMS et qui se déclarent tous favorables au maintien des restrictions. Aucun d'entre eux ne souhaite en effet qu'elles soient levées. C'est Mimsy Delay, la présidente du MEDEF, qui était notre invitée ce matin à 7h30. Après une année 2024 pour le moins compliquée, notamment pour le monde économique, les attentes sont fortes pour l'année qui vient de commencer. Des attentes dans un contexte politique très particulier, alors que les membres du 18e gouvernement viennent tout juste d'être élus. Un nouvel exécutif dont le patronat attend beaucoup et avec lequel le MEDEF est prêt à travailler, nous a dit Mimsy Delay.
Nous sommes des partenaires sociaux, donc le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie est pour nous un partenaire extrêmement important. Nous participons aux travaux dans le sens où nous produisons énormément de recommandations et de rapports. Je rappelle que nous avons, via NCECO, remis dès le mois de septembre un rapport de près de 150 pages qui rassemble des recommandations de réformes urgentes à mener pour la refondation et la restauration de l'économie calédonienne. Aujourd'hui, nous attendons des interlocuteurs qui puissent mettre en œuvre effectivement ces réformes, que ce soit en Nouvelle-Calédonie, mais aussi au niveau de l'État.
Après des mois très compliqués en raison des émeutes qui ont touché la Nouvelle-Calédonie au mois de mai, les urgences économiques sont nombreuses. Parmi celles-ci, la problématique du chômage partiel, mais pas seulement, nous a rappelé ce matin Mimsy Delay.
Le gros problème, c'est la consommation des ménages. On a perdu 16% d'emplois en un an et on le voit, la chute du secteur commerce actuellement, et ça c'est les chiffres de la TGC, c'est 16% aussi. C'est-à-dire que la consommation
16% de rendement en moins.
De rendement en moins, c'est-à-dire qu'on a une consommation qui s'effondre et sans reprise de la consommation, pas de reprise de l'économie. Il nous faut une fiscalité qui à la fois favorise la consommation des ménages et nous, ça fait près de 3 ans qu'on le dit, il faut baisser les prélèvements sur les salaires de façon à s'appuyer sur d'autres impôts comme la TGC ou la CCS, mais il faut le faire en même temps. Et aujourd'hui, nos élus ne font qu'une seule chose, c'est augmenter les impôts. Si nous ne redressons pas cette consommation des ménages, déjà pour les Calédoniens eux-mêmes qui sont dans des grandes difficultés économiques, mais aussi pour la relance économique, eh bien nous risquons d'avoir une aggravation de la situation de la crise.
Et dans ce contexte, 2025 s'annonce donc comme une année charnière pour l'ensemble des acteurs du monde économique, a dit la présidente du MEDEF.
Elle sera charnière parce qu'il y a cette question des 22 000 chômeurs partiels.
Pour vous, ça reste le point le plus important.
C'est un point extrêmement important parce que la Nouvelle-Calédonie, ces dernières années, a perdu de la population. La Nouvelle-Calédonie vient de voir son chômage exploser avec des conditions d'indemnisation des chômeurs qui sont très faibles. Et le risque majeur en 2025, c'est de voir partir de Nouvelle-Calédonie, les gens, notamment les plus compétents, évidemment les mieux rémunérés, à partir du moment où ils perdront leur emploi. Nous ne sommes pas encore en capacité de proposer des emplois à tout le monde. Il y a des secteurs qui redémarrent, on le voit bien, mais ça reste extrêmement compliqué. Pour moi, l'année 2025 va être une année à la fois de début de la reconstruction. On voit que certains chantiers démarrent, et ça, c'est une bonne nouvelle. Mais le devenir de ces chômeurs partiels, de ces 20 000 Calédoniens, eh bien, nous inquiète énormément.
Mim Sidele, la présidente du MEDEF-NC, invitée ce matin sur Radio Rythme Bleu. Une interview à retrouver en podcast audio et vidéo sur notre site internet.
Infomag, il est 11h41.
Dans le reste de l'actualité en Calédonie, en bref, la baignade est interdite depuis hier à la baie des Citrons. Les équipes de la SCADEM, la société de travaux sous-marins, effectuent des contrôles à l'intérieur de la zone de baignade après que des raies ont été vues sautant la barrière de protection. Un comportement qui indiquait peut-être une chasse par un prédateur marin, potentiellement un requin. C'est donc par mesure de précaution que l'accès à la zone de baignade est interdit. Il pourra être rétabli après les vérifications des véhicules nautiques. Et puis la ville de Nouméa a lancé aujourd'hui une nouvelle opération « Un été dans nos quartiers ». Opération à destination des enfants, oui, mais surtout aussi de leur famille, Léo Fichou.
Et ça commence aujourd'hui jusqu'au 31 janvier. La ville de Nouméa propose effectivement des villages vacances accessibles à tous, avec des activités gratuites et encadrées pour les enfants, comme vous le disiez, mais aussi pour les familles, pour les parents, dans quatre quartiers de la commune, à l'espace Caméré 2000, au complexe sportif Bernard Ukéoué de Rivière-Salée, à la maison des associations de Magenta Aérodrome, et puis à l'espace municipal de Magenta, où Mounet est animé.
Alors l'objectif, c'est de créer, renforcer des liens entre les publics des quartiers. Puis nous, on est plus sur le thème sur Magenta, le pôle ressources Magenta, on est surtout sur le thème de la santé, la santé et le bien-être. Et aussi, on a pour objectif de faire sortir le public des quartiers. À la plage de Magenta, au hall de Magenta, au Château Royal pour les baignades en mer, bien pour s'amuser, en intergénérationnel, voilà.
Et ce matin, quelques habitants du quartier de Magenta étaient déjà au rendez-vous. C'est le cas de Sakina et de sa famille au programme des fabrications de tasses avec des noix de coco.
Là, on est en train de dégrossir les cocos pour qu'on va... Après, ensuite, on va fabriquer des tasses pour faire lisse, pour que ce soit lisse les cocos. Prendre des tasses pour boire dedans et tout. Et puis après, si t'as des attractivités, t'as les carrés chinois, après, tu peux aller faire lire des livres et tout, voilà.
De nombreuses activités sont donc proposées tout au long de ce mois de janvier. Et pour plus d'informations, vous pouvez contacter directement le service vie de la cité au 27 07 02, le 27 07 02.
Dans quelques secondes, il sera 11h44. Une pause dans ce journal avant de voir ce qui fait l'essentiel de l'actualité en métropole et dans le monde.
Toute l'info en trois lettres, RRB. Besoin d'une clôture, nous l'avons. La Maison de la Clôture est spécialisée dans la vente et la pose de tout type de clôture. Particuliers et professionnels, nous avons du choix et du stock. Info Facebook, la Maison de la Clôture.
Ah, ces assurances, j'y comprends pas grand-chose.
C'est pourtant simple, fais comme moi.
Va chez AXA, agence Ixon à Magenta, à côté de Mazda. Pour la voiture, le voyage, la maison, la retraite, le placement et la protection de toute la famille, leurs conseils sont simples, clairs et efficaces.
AXA, agence Ixon, votre assureur de proximité.
Numéro de RIAS, 170 059.
Avec la Calédonienne des Eaux, payez vos factures en toute simplicité. Des bornes de paiement sont là pour vous, proches de chez vous. Profitez d'un service pratique et rapide. Calédonienne des Eaux, l'eau qui nous unit.
RRB, 11h-13h, Infomag, Jean-François Bodin.
L'actualité en métropole avec la traditionnelle réunion à l'Élysée des diplomates français pour la conférence des ambassadeurs. Emmanuel Macron en a profité pour fixer le cap de la diplomatie française. Il a évoqué notamment l'Ukraine, le Proche-Orient, le Moyen-Orient, le Mercosur ou encore l'Afrique. Il a aussi pris une certaine distance avec les États-Unis et la future administration Trump. Au cours de cette prise de parole, Emmanuel Macron a également évoqué les ingérences étrangères en France et notamment le cas de l'Azerbaïdjan qui a voulu déstabiliser les Outre-mer.
Des ordres, des démocraties menacées par la remise en cause de leurs promesses de prospérité, d'ascension sociale, de partage du progrès, et directement attaquées par des puissances de déstabilisation. Il y a quelques semaines à peine, la Roumanie a dû annuler une élection présidentielle en raison d'ingérences et de manipulations électorales clairement attribuées à la Russie. Qui l'aurait imaginé il y a 10 ans à peine ? La France a été elle-même attaquée par des ingérences inacceptables dans la plupart de ces territoires ultramarins, et tout particulièrement en Nouvelle-Calédonie ces derniers mois, par l'Azerbaïdjan qui pensait là régler ses propres incompréhensions du fait que nous défendons le droit international et l'Arménie. Qui l'aurait imaginé ?
Et au cours de cette conférence des ambassadeurs, après avoir évoqué les désordres du monde, Emmanuel Macron a livré sa feuille de route. Il a insisté sur la place des Outre-mer et cité la plupart des territoires et évidemment la Calédonie.
Cet agenda de prospérité, nous devons le penser également avec nos Outre-mer. J'ai eu l'occasion de le dire à plusieurs reprises, mais nous n'avons pas réussi collectivement, et c'est une question d'organisation, à remettre véritablement la France archipélagique au cœur de notre stratégie internationale. La France est un archipel. On le regarde trop rarement comme ça en disant que ce n'est qu'un hexagone. Nos territoires ultramarins nous permettent d'être au cœur de tous les continents. Et comme nous sommes en même temps un grand pays jacobin, et que tous nos territoires ultramarins ont ce jacobinisme en eux, chacun avec leur histoire, ils regardent toujours Paris. Ce n'est pas le meilleur moyen toujours pour avoir une stratégie de croissance et optimiser nos potentiels. Il faut avoir une stratégie régionale pour tous nos territoires ultramarins. Alors, on s'est réancré ces dernières années dans les formats régionaux. On s'est battu avec l'unité du Pacifique Sud, le FIP. Il faut maintenant les faire vivre, mais avoir des stratégies de recherche, de croissance, de potentiel dans tous les domaines d'activité avec les pays de la sous-région. Réussir à avoir une stratégie en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, là aussi, avec toute la sous-région, c'est évidemment ce qu'on est en train de bâtir et qu'il faut accélérer.
Emmanuel Macron, lors de la conférence des ambassadeurs la nuit dernière pour nous à l'Élysée. Un mot de l'actualité à l'étranger. Justin Trudeau a démissionné. Cette démission était attendue dans la mesure où le Premier ministre canadien est empêtré dans une crise politique depuis plusieurs mois. À quelques semaines des élections législatives prévues au Canada, son parti de centre-gauche est au plus bas. Justin Trudeau reste en place jusqu'à ce que son parti lui trouve un successeur. Marine Le Pen a quitté Mayotte. Elle a été bien accueillie par une majorité de Mahorais. La chef de file des députés Rassemblement National a été à la rencontre des sinistrés 3 semaines maintenant après le passage du cyclone Chido. Et elle n'a pas manqué d'égratigner le nouveau gouvernement qui n'est pas suffisamment auprès des populations, selon elle.
Ils ont l'impression qu'on parle beaucoup d'aide, mais qu'en réalité, eux n'ont vu personne. Pour la plupart, n'ont toujours pas d'électricité, n'avaient pas d'eau pour certains jusqu'à très récemment. Moi, je viens juste pour voir si le discours que j'ai entendu correspond à la réalité que je constate. Bon, la réponse est non.
Marine Le Pen qui a ensuite quitté Mayotte. Et pendant ce temps, le gouvernement prépare le futur budget de la France. Le nouveau ministre de l'économie, Éric Lombard, et la ministre du budget, Amélie de Montchalin, ont rencontré les différents groupes politiques. Officiellement, il s'agit de consulter pour éviter de commettre les erreurs du gouvernement Barnier et s'exposer à une motion de censure sur le sujet. Le mot d'ordre, c'est l'ouverture. Alexis de La Fontaine pour Europe 1.
2 heures de rendez-vous et à la sortie, une franche poignée de main entre Olivier Faure et Éric Lombard. Les deux hommes, proches depuis des années, promettent de se revoir et de continuer à travailler ensemble. Pour le ministre de l'économie, la solution viendra certainement de la gauche plutôt que du Rassemblement national. Alors, pour tenter d'aboutir à un accord de non-censure, le patron des sénateurs socialistes, Patrick Kanner, rapporte une avancée sur la question des retraites.
Il y a eu une proposition de modification, d'évolution de la réforme de la retraite. La ministre en charge, Madame de Montchalin, n'a pas été dans le détail, mais manifestement, la pression que nous avons mise depuis le début sur ce dossier fait bouger les lignes au sein du gouvernement, et cela est tout à fait positif.
Pour l'instant, Bercy refuse de donner des précisions sur cette possible évolution de la réforme des retraites. Nous attendons de rencontrer tous les groupes parlementaires, répond l'entourage d'Amélie de Montchalin. Mais au Parti Socialiste, de nombreux députés se méfient de ces promesses en l'air et restent encore très pessimistes à l'idée d'un accord de non-censure.
Justice, et l'influenceur franco-algérien Imad Tintin sera finalement jugé le 5 mars prochain. Il a été interpellé dans la région de Grenoble en raison des appels à violence qu'il relaie sur les réseaux sociaux. La justice s'intéresse de près à ces influenceurs franco-algériens. 2 autres ont été arrêtés un peu plus tôt dans la semaine et 3 autres sont visés par la justice dans la région lyonnaise. Justice toujours avec un nouveau procès pour Nicolas Sarkozy. L'ancien président de la République se retrouve devant la 32e chambre correctionnelle pour le financement supposé illégal de sa campagne 2007. Il aurait reçu de l'argent du pouvoir libyen de l'époque. Nicolas Sarkozy comparé avec 12 autres co-accusés. La première journée d'audience n'a pas abordé le débat sur le fond. Ils ont porté sur la compétence de ce tribunal. Jacques Seret pour Europe 1.
C'est une question soulevée par la défense. N'est-ce pas à la Cour de justice de la République de juger cette affaire plutôt qu'au tribunal correctionnel ? L'avocat de Brice Hortefeux s'avance à la barre. Maître Jean-Yves Dupeux fixe les procureurs du PNF, le parquet national financier. Vous reprochez à mon client d'avoir commis un délit au cours d'un voyage officiel lorsqu'il était ministre, lance-t-il. Puis il se tourne vers la présidente du tribunal. Je vous demande de prononcer votre incompétence et de renvoyer ce procès devant la Cour de justice de la République. Ce renvoi, l'ancien président le souhaite aussi. J'ai le sentiment que le PNF veut faire de Nicolas Sarkozy son domaine réservé, pointe son avocat, maître Jean-Michel Darroy. Mais le procureur du PNF, Quentin Dandois, s'emporte. Vous voulez être jugé comme tout le monde, monsieur Sarkozy, non ? L'ironie n'a pas sa place, interrompt la présidente du tribunal. Nicolas Sarkozy bouillonne et ne peut se retenir. C'est effrayant, ça me choque. Si le tribunal se dit compétent, ce procès aura lieu jusqu'au 10 avril.
Il est 11h51, la dernière page de ce journal dans un instant sera consacrée à l'actualité sportive.
RRB, 11h-13h, Infomag, Jean-François Bodin.
Pour vous, comme pour nous, il n'y a pas de jour sans l'OPT sur Radio Rythme Bleu. Rendez-vous sur notre site www.opt.nc pour découvrir l'ensemble de nos offres. L'OPT, le monde à portée de main.
Les galettes des rois sont arrivées à l'atelier gourmand. Savourez de délicieuses galettes artisanales 100% pur beurre. Et découvrez qui sera la reine ou le roi cette année. Frangipane, pomme ou banane chocolat. Des galettes croustillantes et dorées à souhait à retrouver dans vos trois boulangeries l'atelier gourmand de Lanzvata, Faubourg et Bellevue. Plus d'infos sur Facebook et l'ateliergourmand.nc.
Pour gagner des bons d'achat de 100 000 francs, à dépenser où vous voulez, comme vous voulez, envoyez RRB au 4020. Tous les 1500 SMS, pile sur le compteur, 100 000 francs de bons d'achat sont gagnés. Il n'y a pas de liste préétablie, les gagnants décident comment se faire plaisir. Et si vous n'êtes pas pile sur le compteur, votre SMS est enregistré automatiquement pour le jeu du million. Oui, 1 million de bons d'achat sont à gagner par tirage au sort parmi tous les SMS reçus. Alors tentez votre chance en envoyant RRB au 4020. 371 francs par SMS, règlement disponible à l'accueil de la radio. N'oubliez pas, RRB au 4020. Bonne chance.
Tout le sport en trois lettres, RRB.
Et avant de retrouver Jean-François Baudin, on salue notre partenaire.
Avec Décathlon, suivez l'actualité sportive du jour et les résultats locaux, nationaux et internationaux. Décathlon, partenaire de tous les sportifs calédoniens depuis 10 ans. Décathlon, à fond la forme.
L'actualité sportive avec d'abord du tennis et les qualifications à l'Open d'Australie qui ont plutôt mal démarré hier pour les Français, Léo Fichaud.
Oui, 24 tricolores tentent de rejoindre le tableau final de ce premier tournoi du Grand Chelem de la saison. Malheureusement, lors de la première journée hier, les 6 engagés, Richard Gasquet, Hugo Blanchet, Harold Maillot et Hugo Grenier chez les hommes, mais aussi Jessica Ponchet et Alice Tubelo chez les dames, ont été éliminés. Aujourd'hui, 18 tricolores sont sur les courts, parmi lesquels on retrouve Enzo Cuoco et Constant Lestienne, qui étaient la semaine dernière sur le Challenger de Nouméa, mais également du côté des dames, Kristina Mladenovic.
En voile, Charlie Dalin est toujours en tête du Vendée Globe, mais son dauphin Johan Richaume, ils ont tous les deux dépassé le poteau noir.
Et oui, le poteau noir, cette zone météorologique très instable dans l'océan Atlantique, où les vents sont changeants et difficiles à prévoir, une zone qui se situe entre le Brésil et l'ouest de l'Afrique. Au dernier pointage, Charlie Dalin sur Massif Santé Prévoyance possède désormais 107 000 nautiques d'avance sur Johan Richaume, donc à bord de Paprec Arkea. En troisième position, Sébastien Simon sur Groupe Dubreuil est à 658 000 nautiques du leader. D'ailleurs, notez que Charlie Dalin, qui est en tête, devrait arriver au Sable d'Olonne le 14 ou le 15 janvier.
Et puis un mot de sport mécanique avec le Dakar, édition 2025, qui n'épargne pas les favoris.
Ces deux derniers jours étaient marqués par une expédition de 48 heures chrono avec près de 90 km dans les dunes qui en ont fait voir de toutes les couleurs à certains, et notamment à Sébastien Loeb. Le Français avait perdu gros lors des 24 premières heures suite à une panne de ventilateur, mais il s'est rattrapé sur les 24 heures suivantes en revenant à toute vitesse sur ses concurrents. Après cette deuxième longue étape, Sébastien Loeb est sixième à 18 minutes et 56 secondes du leader. En revanche, le tenant du titre, Carlos Sainz, a lui été contraint à l'abandon ces dernières heures après que sa voiture soit partie en tonneau dans la nuit de dimanche à lundi. Côté moto, c'est l'Australien Daniel Sanders qui continue de dominer la catégorie avec une nouvelle victoire sur cette étape marathon de 48 heures.
Il est 11h55, c'est la fin de ce journal. Je vous rappelle l'information principale que nous avons développée dès l'ouverture de cette édition avec l'élection des 11 membres du 18e gouvernement qui a eu lieu ce matin au Congrès. Il n'y a pas eu de surprise. En revanche, les membres du gouvernement n'ont pas réussi à élire pour l'instant un président de l'institution. Et puis on a appris que Philippe Dunoyer, qui avait été élu au gouvernement, a finalement démissionné pour retrouver son siège au Congrès et que Calédonie Ensemble conserve un groupe politique au Congrès. C'est donc Jérémy Katidjo-Monnier qui retrouve son siège au gouvernement. On reviendra évidemment sur cette journée dans nos prochaines éditions.